France Inter.
Et c'est la bande originale.
Youpi.
Vous êtes bien avec Lisa, Del Moitié, Camille, là-bas, Julie Gonti.
Bonjour tout le monde.
Monsieur Adelin.
Bonjour.
Jean-Guy Pastoureau. Bonjour. Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et notre invité, Olivier Marchal.
Bonjour.
Bravo. France Inter. La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
On va faire vite parce qu'il a un train pour Marseille. Oui. Ça va Olivier ?
Oui, très bien.
Toujours ravi.
Je suis heureux de venir chez vous.
Eh ben, c'est réciproque. Fois. C'est réciproque. Surtout que là, nous n'allons pas parler d'un meurtre A. Donc vous vous souvenez très peu d'ailleurs, sur scène, vous oubliez tous les meurtres que vous avez fait. Vous dites j'ai tourné un truc pour France 3, ça oui, m'a fait rire.
Oui.
Oui, non, vous les oubliez les téléfilms, certains téléfilms.
Certains.
Voilà.
Oui,
ça.
Non mais après c'est pas... Non, qu'est-ce que vous voulez dire là ?
Rien.
Mémoire sélective.
Voilà, mémoire sélective. Non, mais... Il y a quelques téléfilms que vous oubliez, puis il y a des films où là vous pouvez rester pendant un quart d'heure, 20 minutes avec des anecdotes truculentes, puisque c'est le sujet de ce spectacle que vous allez donner le 14 mai à 20h au Théâtre de l'Œuvre. Un échange alors écrit, et on va voir comment il a été préparé cet échange avec David Becker qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure. Mais comme vous vous racontez, comme vous racontez vos rêves, vos rencontres, vos dîners, et même votre vie de policier et aussi de réalisateur, on parcourt vraiment, on est au plus près d'Olivier Marchal. Je vais faire un petit tour de table pour voir, puisque vous évoquez aussi
qui est d'Olivier Marchal.
Il vaut mieux pas, en fin d'émission.
Et on commence par Daniel. Là.
Vous évoquez ceux que vous auriez aimé rencontrer, justement. Ceux avec qui vous auriez aimé partager un moment, une bouffe. Je pense à Lino Ventura que vous n'avez pas osé aborder alors que vous l'avez croisé.
J'étais en planque.
Croisé dans la rue.
Passé sur le trottoir.
Alors, vivant ou mort, avec qui aimeriez-vous partager un dîner parmi les, je sais pas, actrices, acteurs, chanteurs, chanteuses, hommes politiques, je sais pas. Enfin, personnalité comme ça, vous dites « Ah !» J'aimerais bien
faire des meurtriers.
Pardon.
Des meurtriers.
C'est une personnalité. Oui.
Si c'est une personnalité, c'est à toi de mettre la barre où tu souhaites. Lisa Delvoye, tu aimerais faire un tête-à-tête avec qui ? Vivant ou mort ?
Vivant ou mort. Ouais. Je dirais Chantal Ackerman, qui est une réalisatrice belge. Je dirais avec elle. Et pour mettre un peu d'ambiance,
ce qui est possible.
Non, elle est morte. Mais enfin,
elle est morte. Ah, pardon.
C'est vrai.
Oui. Ah, elle est morte.
Il y a des petites rétrospectives sur Chantal Ackerman.
J'avais pas. Je suis
désolé. C'est pas grave.
On peut quand même la voir.
Maintenant, si on tue Lisa Del Moitié, elle va peut-être aller manger avec.
Pardon, pas con.
Et peut-être pour mettre un peu d'ambiance quand même.
Ah oui, vas-y.
Parce que deux Belges sont un peu glauques. Je crois que je rajouterais Keith Richards.
Oh, wow.
Il est mort, non ?
Alors, je ne crois pas. Je crois, non.
Il peut
plus
mourir.
Keith Richards à table.
Ouais.
Ok, très bien. Tu vois que tu réfléchis, Camille.
Non, c'est très clair. Jennifer, depuis que j'ai 12 ans. Tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas.
J'attends l'amour.
Exactement.
C'est okay, relativement impossible.
Julie,
Moi, je pense que c'est juste pour manger avec Colette. J'aurais bien voulu la rencontrer et que ça soit ma meilleure pote.
D'accord, très bien.
Colette qui ?
Tanguy.
La voisine.
Le magasin ?
Ouais, non.
Il a fermé. Tanguy, avec
Jean-Marie Le Pen.
C'est encore possible ? Ah non.
Non, John Lennon.
Ah ouais, John Lennon.
Il avait ce côté, il cherchait la paix, l'harmonie, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait une rage incroyable en lui. Et j'aime bien cette espèce de mélange des deux, quoi. Arriver vers le soleil, alors qu'à l'intérieur, on est tout noir et il y a beaucoup de problèmes, quoi.
J'aime bien quand Tanguy fait l'intello comme ça. C'est bien.
Mais non, mais ça m'a toujours marqué, ça.
Non, mais c'est vrai qu'il avait. Il n'est pas saisissable, en fait. Même quand on voit les interviews de McCartney, quand on parle, ou même le doc sur, je crois, Apple TV.
Il se met à détester tout le monde.
Ouais, on se rend pas compte.
Et en même temps, il cherche vraiment l'harmonie. Donc.
Leïla ?
Moi, je mange pas. Je fais une nuit de fête avec Dalida et Freddie Mercury. Allez hop, salut les gars.
Et donc à la suite de cette nuit, tu décèdes et tu les rejoins.
Exactement.
Pas vivre
après, que vaut la vie après une nuit comme ça?
Oui.
Rien, il faut partir.
Ouais.
J'hésite entre McCartney justement pour pouvoir chanter, rigoler sur Tanguy et John Lennon, qui faire un duel. Non, j'aurais aimé croiser Johnny. Voilà, vraiment, juste lui serrer la main parce que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, mais pas de Johnny.
Pas de Johnny.
Petit pincement.
Ouais, je peux comprendre ce regret là, Daniel.
Ouais, que des disparus, Belmondo, Gainsbourg. Marshall.
Il me manque.
Je le retrouve.
Les trois me manquent.
Cet hologramme est si bien fait.
Ah oui, parfait.
Moi, Jimmy Fallon.
Ah ouais.
Ouais, pas mal. Parce que je pense qu'il a, il doit avoir des milliards d'anecdotes. Ouais. Et puis c'est un mec qui a tous les talents, quoi. Il danse, il chante, il fait des interviews.
Est-ce que c'est pas un clown triste? Est-ce que le mec il est pas drôle à la télé? Il est pas chiant la vie?
En tout cas, il fait bien semblant de rire parfois.
Alors, alors pour avoir eu la chance de croiser l'un de ses concurrents, Jimmy Kimmel, qui était très 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 sympa. Et en plus, c'est un grand moment de solitude pour moi parce que.
J'ai pris pour Guilux.
Non, du tout. En fait, on était chez un pote.
D'où ça vient dans ta tête, Guilux, à ce moment?
Il m'a jamais quitté.
Guilux, évidemment. Alors, ah oui, comme je vais présenter avec Bruno Guillon Zitrone, ça va être formidable.
Puis quel couche avec Freddie Mercury, il n'est plus là.
J'ai un pote américain qui me dit, je fais un petit cocktail ce soir, machin, est-ce que tu veux passer? Ah, c'est à quelle heure? Je sais pas si je peux. Et là, il me dit, viens, il y a Jennifer Aniston. Et je suis un peu comme toi, avec Jennifer Aniston, je suis fou amoureux de Jennifer Aniston. Et ma femme me dit, hey, il y a Jennifer Aniston, tu peux pas ne pas y aller, puisqu'elle sait à quel point je suis dingue de Jennifer Aniston. Donc, on y va à ce cocktail, rempli de requins et ainsi de suite. Et il y a Jennifer Aniston, en effet, qui est à côté du bar. Et je tourne la tête et Mélanie me dit, tu vas y aller? Je dis, bah, il y a quand même Jimmy Kimmel à côté, quoi. Et là, je me rends compte que je suis encore plus fan de l'Anchorman, du talk show et du bonhomme. Ouais. Et donc, mon copain américain me dit, mais viens, je vais te présenter. Et à l'américaine, le gars te dit évidemment, bah, je vous présente le meilleur du monde. C'est-à-dire que le gars, les Américains, ils vont tout de suite dans les compliments totalement dingues. He's a star, great star, wonderful star, et machin. Donc les deux requins très gentiment, genre bonjour, hi. Donc tu serres la main de Jennifer Aniston, tu serres la main de Jimmy Kimmel. Pour pas faire le mec relou qui allait demander un selfie à Jennifer Aniston, je commence à parler à Jimmy Kimmel. Et là, je vois dans mon champ de vision que Jennifer Aniston se casse. C'est-à-dire, elle fait, ok, je vais laisser parler tous les deux télévisions et je m'en vais. Et là, j'ai pleuré ma race. Ah, mais Kimmel était très sympa et très drôle. Donc, j'ai bien compris. Lino Ventura, pour vous, Olivier Marchal, ou il y a un autre nom qui vous vient à l'esprit maintenant?
Non.
Une personne avec qui vous aimeriez
échanger? Non, mais j'ai eu la chance, moi, de ceux avec qui j'ai eu la chance de partager des dîners, des déjeuners arrosés avec Bébel, avec Jean-Paul, et puis...
Non, mais ça a été fait.
Et Johnny, pour...
Olivier,
Johnny,
pour
j'ai eu la chance de le connaître aussi, qui est un type merveilleux, mais pas très drôle, mais tellement timide que...
C'est vrai.
Non, mais c'était un garçon tellement touchant. Voilà, j'ai eu quand même la chance. Et puis surtout, Depardieu m'a fait un plan. Une fois, quand on tournait 36 Quai des Orfèvres, je vais le retrouver au resto. Il était avec Auteuil. Bon, il s'avait déjà bien arrosé. Et le gros, il se lève. Il me dit, oh, je vais te présenter quelqu'un. Allez, bouge pas. Il part dans le resto. Il revient avec Steven Spielberg. Et là, il fait pareil à la Ricaine. Ah, il présente you, Steven. Olivier, he's the great director. He's the best in France. Et voilà. Moi, je suis là, je serre la louche à Spielberg. Je suis comme ça. Et il commence à me parler. Et avec mon anglais pourri, en fait, je comprends. Je lui dis, il me dit, Gérard lui dit, mais c'est un ancien flic qui est devenu réalisateur et tout. Et Spielberg me dit, ah, j'aurais adoré être flic. Et moi, je lui réponds, moi, j'aurais adoré être vous. Je fais, super sympa.
C'est
hyper sympa, quoi.
C'est mignon. Ce que vous venez de faire, c'est un peu le résumé aussi de ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que vous racontez justement ces anecdotes avec. Alors, l'idée vient de David.
Oui, David Becker,
c'est lui qui vous a contacté en disant, et si on écrivait. C'est écrit ou c'est improvisé?
Non, en fait, moi j'ai monté un festival de théâtre sur le bassin d'Arcachon qui s'appelle Les Scènes d'Olivier Marchal, puisque le maire de la Teste, Patrick Davé, est un ami d'enfance avec qui j'ai joué au rugby, tout ça et tout. Et donc on a profité pour. C'est la troisième édition et ça marche très bien. Et David Becker, Marianne qui s'occupe du festival, a appelé David qui avait un concept. C'était. Il y a un canapé, enfin, ça. Salon qui est installé, un petit groupe à côté qui est très bon, qui joue. Ça devait être avec Depardieu et Pierre Richard au début. Il y a eu tous les problèmes évidemment qu'on connaît liés à Gérard, donc il y a eu des menaces sur le théâtre et tout ça, sur le public. Donc Gérard élégamment s'est désisté et on l'a remplacé par Thomas Dutronc et Bougenin avec Pierre Richard. Et le spectacle a fait un carton. Et David m'a proposé l'année d'après de le faire avec Lanvin. Donc je l'ai fait avec Gérard Lanvin, où David est au milieu. Il a évidemment
préparé. Il y a des making-of, il y a des extraits de films, il a quand même un canevas.
Un conducteur.
Et après, on se lâche, et après, on part en impro tous les soirs, on raconte nos souvenirs.
Y compris répondre aux questions qui peuvent venir.
Oui, à la fin, le public pose des questions, mais pendant une heure et demie, deux heures, et moi, j'avais pas la prétention, quand il m'a proposé après de le faire tout seul, j'avais pas la prétention, j'ai dit, écoute, moi, est-ce que les gens vont se déplacer pour venir me raconter ma vie? Et puis, en fait, on a fait une tournée province qui marche très bien. On fait pas des zéniths, hein, on fait des salles intimistes, on fait des salles de 300 places.
Olivier, pardon, je vous interromps quand vous dites Gérard Depardieu et les gamins s'est retiré.
Oui.
Je trouve la formulation malheureuse.
Sans mauvais jeu de mots. Oui.
Non, c'est pas tant pour ça que je repère cette phrase.
C'est qu'il pouvait pas faire autrement.
C'est les gamins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres possibilités.
Oui, oui.
C'est difficile d'accueillir, alors après c'est pas moi la directrice de ce festival, mais ça me semble difficile d'accueillir dans votre festival quelqu'un qui en ce moment est là en ce moment particulièrement au cœur d'un procès, mais qui a fait l'objet d'un certain nombre d'accusations.
Oui, oui.
Je ne vois pas où l'élégance vient jouer un rôle quelconque dans l'histoire.
Je n'ai pas envie de tomber dans un piège.
Non, bien sûr.
C'est pas,
non, mais je préfère moi, reprendre...
Quand je dis oui, il a eu de la voile, on va dire oui.
Ça mérite juste d'être explicité.
Oui, d'accord.
C'est pour, si on veut éviter de tomber dans un piège, il me permet de relever ça.
Il n'y avait pas d'autre solution.
Non, il n'y avait pas d'autre solution, bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Il y a toujours la présomption d'innocence, pour l'instant, si vous voulez.
Bien entendu.
Donc,
et sinon, ça va?
Oui, sinon, ça va.
Non, vous voulez dire, ça reste votre ami.
Oui, moi, je sais que Gérard est un malotru. C'est un malotru qui faisait les concours de paix avec Jean Carmet sur les tournages, qui parle.
Ça, c'est pas interdit par la loi, ça.
Ouais. Non, mais bite couille cul et tout ça, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai fait trois films avec lui. Je ne l'ai jamais assisté. Si j'avais assisté à la moindre chose, évidemment, alors, on dirait, on n'est pas convoqué en spectateur quand ces choses-là se passent.
Non.
Je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, je sais, pour l'avoir, de temps en temps, je sais qu'il est très malheureux, il est très affecté. Après, moi, je suis un des premiers défenseurs de la cause féminine. Sur mes tournages, ça n'existe pas. J'ai toujours respecté les femmes.
Non, c'est justement pour ça qu'Olivier, je me permettais de dire qu'il faut faire attention à la formulation.
Si vous aviez assisté à la moindre agression, vous seriez intervenu.
Oui, mais évidemment.
Non, mais évidemment.
Il faut attendre.
Moi,
ça m'est arrivé
sur un de mes films avec un acteur pas connu. La costumière est venue.
Elle
était en larmes.
Elle
a subi. Donc le mec, je l'ai pas emplâtré, mais j'ai collé. Il a dégagé quoi. C'est tout. C'est quand même.
La moindre des choses.
Évidemment.
C'est aussi aux hommes d'être les premiers féministes. Là aussi, c'est la moindre des choses. On va continuer de parler de ce spectacle.
J'ai trois filles, hein, vous savez. Donc, vous savez, moi, avec
ma
fille.
C'est pas un argument,
avec ma, non, mais avec ma fille Zoé. Non, mais avec, si, mais c'est, avec
non,
ma fille Zoé,
qui sont mariés, qui ont des
bombe,
enfants. Mais
quand je me promène dans Paris, si vous voulez, je vois le regard des hommes quand je suis avec elle. Je comprends ce que c'est que d'être une femme. J'aimerais pas être une femme, en fait.
Non.
Donc voilà, c'est ça que je voulais dire quand je dis j'ai trois filles. C'est pas parce que j'ai trois filles, évidemment.
On va même aller plus loin.
Je suis venu pour me faire défoncer ou pas?
Non,
c'est juste pour savoir. Non, parce que j'ai une amie-fille et tout.
Olivier, on fait attention.
Je suis pas comme ça du tout. Hein.
C'est pour ça. Mais pour aller plus loin, même sans avoir de filles, on est tous déjà un enfant d'une femme. Donc le respect des femmes, c'est quelque chose qui est dans la nature même.
On est forcément issu d'une femme, certes, mais pour autant, est-ce que ça fait qu'on les respecte? Non. Donc une fois qu'on s'est
j'ai compris. Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pense à ta mère aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes.
Mais il y a beaucoup de gens qui pensent pas. Donc
on est d'accord. Revenons à ce spectacle où justement tout est abordé dans ce spectacle, que ce soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle et de différentes professions, parce que en tout, vous avez fait quoi? Il y a trois métiers, il y a l'acteur, le réalisateur, le policier, ce sont tout ce que vous évoquez, vos amitiés, vos rêves, et notamment de rencontrer différentes stars qui vous ont fait rêver, et pour différentes raisons. On va en parler jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici un fan de vous, c'est Old Love.
Je suis fan d'Olivier Marshall. Je suis fan même sans gilet pare-balles. mal. Vous êtes le gros dur du cinéma français. Moi je suis tout mou, on me laisse même pas entrer. Je suis fan, fan d'Olivier Marshall. En flic des 80, vous traquez les mecs en cavale. Ça rigolait pas du tout, c'était votre côté sombre. Vous leur disiez comme ça en les coffrant à l'ombre. Toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans notre monde. Arrache-toi de la tête, pas de ma banque originale. Je m'appelle Olivier Marshall. Et vous êtes là pour au plus près d'Olivier Marshall. Un peu plus près de Marshall. C'est au théâtre dans pas longtemps. Pensez bien à réserver avant. Un peu plus près de Marshall, dans le 9e arrondissement. Venez en métro, on peut plus se garer devant. Ouais, je suis fan d'Olive, c'est mon surnom aussi. Vous pouvez vous vanter d'avoir eu plusieurs vies, mais c'est la première fois que vous montez sur scène tout seul, enfin pas seul, mais faut que les autres comprennent. Je marche à le seul, sans collègue, sans personne, sans public, non je déconne. Je marche à le seul, c'est mieux pour faire mes heures. Je marche à le seul, juste des icônes qui cartonnent. Mais pour les sous, je m'y tonne, je partage seul. J'ai pris des amateurs. Ouais, je suis fan, fan d'Olivier Marshall. Initial OM, Nagui trouve ça spécial. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Surprenne, Holdelaf, à Lyon le 12 avril, à Orthez le 18 avril et à Jeumont, c'est le 26 avril.
Lyon, justement, où vous vous êtes produit, partout où vous êtes produit, Olivier Marshall, ça a été un carton, une réussite à Rouen, à Caen, à Arras, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Lyon. Donc rendez-vous le 14 mai à 20h au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Est-ce que, en fonction du public, en fonction de l'adresse où vous êtes, les choses sont différentes? Les histoires sont différentes. À Lyon, forcément, ça a résonné avec le film des Lyonnais que vous aviez tourné là-bas, et votre rapport à la gastronomie aussi, et au Bourgogne. mais blague à part, on s'adapte à l'endroit où on joue.
Oui, bien sûr. Oui, à chaque fois, oui. Mais on raconte un petit peu. Enfin, c'est axé toujours un peu sur les. Il y a des axes. Mais de temps en temps, c'est vrai que je pars en impro et puis une affaire, par exemple, de flic m'en amène à une autre.
Et pourquoi ne pas inventer? Pourquoi? Puisque vous êtes sur une pièce de théâtre, puisque vous êtes acteur, auteur, réalisateur, pourquoi ne pas rajouter de la fiction? Mais comme un bon pote raconte une histoire en disant il m'est arrivé un truc, et puis il en rajoute. C'est pas du mensonge.
Oui, mais en fait, c'est
faire rire, pour faire réagir.
Bien sûr. Mais c'est le but, de toute façon, c'est d'en faire des kilos, quand même. Voilà, quand je raconte les anecdotes de tournage, je parle même des anecdotes des autres, Jean-Paul Belmondo, de ce à quoi j'ai assisté aussi. Enfin, c'est
des anecdotes de policiers quand David vous demande comment faire pipi ou popo
dans un fourgon planque. Bien sûr.
Alors comment on fait?
Allez voir le spectacle. Non mais c'est vrai.
J'ai perdu déjà des points tout à l'heure, je vais pas en perdre encore.
Olivier. On se rencontre.
On invite les gens que l'on aime, donc entendez-le et sachez-le.
Même ceux qui pissent dans les vannes.
Surtout.
Alors,
surtout.
Non, le pipi, ça va, c'est le caca.
Vous
la connaissez, l'anecdote, de toute façon.
Ouais, mais donc, à vous de la découvrir en allant le voir sur scène.
Oui, c'était pas moi, c'était mon chef de groupe. Voilà, il s'appelait René, qui était en costume en plus, qui était un Marseillais, ouais, bien sûr, qui faisait les thés dansant et tout, à 16h et
mais
tout.
Non.
Il allait lever les vieilles dames et tout ça. Et on était obligés de lui prêter notre appartement, comme il était marié, évidemment. donc pour qu'il aille un peu fricoter avec... Ouais, c'était un gigolo, quoi. Mais il s'habillait, il mettait les chaussures vernies et tout, c'est les années 80.
Ah, ça,
donc,
ça marche, la chaussure vernie.
Et en fait, à l'époque, oui. Ah ouais. Et à l'époque, et donc, il avait une pressante envie, il avait mangé un kebab qui était mal passé. Et on était dans le quartier turc, on pouvait pas sortir parce que c'était assez chaud l'endroit où on était. On pouvait pas descendre du fourgon parce qu'il nous aurait reniflé tout de suite. Et évidemment, il nous a dit tournez-vous les gars, allez dans la cabine devant et tout. Et il avait l'équipe, et il s'est répandu sur l'équipe. Bon, après c'est les odeurs, on a été évacué assez rapidement.
Il a caviardé l'équipe. Ouais.
Voilà. Ça c'est les histoires de flics, voilà.
Ouais. Mais tu m'étonnes
qu'ils ont dû me la recruter la police.
Ce qui est dingue, c'est que dans ce que vous racontez, que ce soit les tournages, que ce soit les difficultés, par exemple, aussi à produire un film, à réunir l'argent des producteurs, d'avoir, et vous le dites avec une franchise qui est votre marque, finalement, et votre patte, ceux qui ont refusé aussi certains des scénarios que vous avez proposés, ceux qui ont fini par accepter, ceux qui ne voulaient que le rôle du gentil, oui, et pas le rôle du méchant, et ainsi de suite. Vous le faites sans filtre, sans vous demander d'ailleurs comment ils pourraient, je parle de ces artistes encore vivants,
parce que je suis pas méchant,
le prendre, et que c'est la vérité.
C'est la vérité, puis il n'y a rien d'agressif, en fait.
Non, j'entends, mais...
C'est un constat, c'est de dire, voilà, lui...
Avec le recul, un acteur qui a refusé de faire 36, qui est des orfèvres, on peut se dire, il a pas eu le pif, quoi, il n'était pas...
Il l'a eu sur d'autres projets, en l'occurrence. Vincent, il m'a appelé après pour me féliciter sur un autre film. Après, Gérard Lanvin aussi, je m'avais appelé pour le faire et en fait, avec Gérard, on était fâchés depuis. on s'est retrouvés, maintenant c'est mes meilleurs amis.
Ok,
c'est Philippe Guillard qui nous a réunis. Voilà, ça.
Autour du rugby, autour de son film.
Il a fait le fils à Jo, Gérard lui avait dit oui pour le scénario.
Mais pas avec Olivier Marchal.
C'est le rôle du chinois, donc, dedans. Et en fait, comme Philippe, il m'a dit, putain, ça serait, vous êtes fait pour vous rencontrer quand même. Quand il a dit à Gérard, c'est Marchal qui va faire le chinois, l'autre, il a dit, pas ce con. Et moi, quand il m'a dit, c'est Gérard qui fait, je lui dis, pas ce con. Et donc, et en fait, on a fait un dîner, maintenant, on est les meilleurs amis.
C'est deux cons.
Gérard, c'est parmi mes meilleurs amis, quoi. Puis on a fait 4 films ensemble, et voilà, et je l'adore.
Et vous essayez toujours de l'appeler quand vous êtes sur scène en fonction de...
Oui, on l'appelle souvent. Parce qu'il aime bien jouer le jeu, il répond. Mais c'est parce qu'on a une façon de s'allumer tous les deux. Il ne faut pas oublier que Gérard, c'est la bande à Coluche. Donc, il est très, très, très drôle. Enfin, vous le connaissez.
Absolument, oui.
Voilà, moi, je l'adore, quoi. Franchement, c'est vrai qu'on était fait pour être potes, quoi.
Il est inimaginable pour vous de tourner un film avec un acteur avec lequel vous ne pourriez pas être ami, mais juste pour le faire d'une manière professionnelle, parce que le casting, les producteurs vous disent il faut tourner avec un tel.
Ça m'arrive.
Est-ce que vous pouvez tourner avec quelqu'un avec qui vous ne pourriez pas justement vous mettre à table et partager un repas?
Et c'était qui la dernière fois?
Non.
C'est un symbole que vous expliquez en disant...
Oui, c'est mon père qui me disait ça. Quelqu'un avec qui t'as pas envie de déboucher une bonne bouteille à table et de rester dîner s'il faut pas travailler avec. Et ça m'est arrivé une fois et effectivement, il avait raison. Ouais. Ouais, c'est franchement... Mais bon,
c'est une jolie formule. C'est une jolie formule.
Oui,
non, c'est une belle formule.
On peut le découvrir sur le tournage. Après, on peut ne pas le connaître avant et on tombe sur le tournage.
Mais là, je l'ai bien découvert sur le tournage. Quand un acteur décide d'être con, il est con. Hein. D'ailleurs, il y a la fameuse expression que disait Patrick Jamin, le regretté Patrick Jamin, qui était réalisateur, il avait cette expression, il disait con comme un acteur. C'était sa grande expression. Ouais. Et c'est vrai que une fois, il me dirigeait sur une scène, j'y arrivais pas, je dis putain, cette scène, il est venu me faire la plus belle direction d'acteur qu'on peut faire à quelqu'un. Il m'a dit, écoute, réfléchis pas, joue. Voilà. Donc, il avait tout dit, quoi.
Voici Lisa Del Moitié. L'idée d'être plus près d'Olivier Marchal sur scène, vous ne l'auriez pas imaginé comme ça, vous?
Non, Olivier Marchal, attention, j'ai énormément d'admiration pour votre carrière de policier et votre carrière au cinéma, je m'incline. Mais Olivier, ça se voit que vous avez moins l'habitude de la scène que moi, mon vieux. Oh là là. Et dans votre spectacle au plus près d'Olivier Marchal, vous racontez, vous êtes même parfois accompagné de musiciens, c'est super. Et à la fin, vous promettez en tout cas, un moment pour les questions des spectateurs. Énorme erreur, Olivier. C'est jamais la question que t'attends. Vraiment, croyez-moi, je monte aussi sur scène, je passe une heure à parler de sujets aussi variés que moi. Moi, et parfois, si j'ai inspiration, l'intérieur de moi aussi. J'appelle ça de l'introspection. Les gens appellent ça trop d'informations. Et à la fin, un jour, j'ai demandé aux gens de lever la main pour savoir s'ils avaient des questions. Sur mon rapport à la mort, peut-être, la façon dont je navigue entre quête de soi et altruisme. Et là, je vois un bras se lever. Merde, c'est encore mon fan néo-nazi. Baisse le bras, Oldelaf. J'ai un jour dit que j'aimais l'Allemagne, mais c'est pour les boîtes berlinoises et les saucisses. Dépité, je tente tout de même de relancer ce moment Q&A. C'est une question-réponse en anglais et en abrégé. Merci. Les puristes de la langue de Molière vont râler, mais j'ai essayé en français. Question-réponse, ça marche pas, ça donne un moment Q et R. Et non, à la fin de mon spectacle, je n'invite pas tout le monde à péter. Oh. Voilà. Vous l'avez, Olivier. J'essaye de me mettre à votre diapason.
Quelqu'un à l'équipe ?
J'essaye pas, j'y suis toujours. Donc je relance le moment Q et R et je vois un autre bras tout de même se levant au fond. Enfin, une question sur mon texte, mon vécu. Je vous écoute. Ah, oui, en vrai, il est sympa, Nagui. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Oui, oui, en effet. Pour valider votre ticket de parking, c'est à la sortie. Enfin, bon, bref, bonne soirée, quoi. Donc, ne faites pas ça, Olivier. C'est toujours décevant, croyez-moi. Vous avez passé une heure à parler de votre expérience à la brigade criminelle, votre expérience au cinéma, les cas compliqués quand vous étiez policier, les trucs peut-être un peu glauques. Vous lancerez une question, vous aurez juste un vieux. Il est sympa, en vrai, fournirait. Et vous répondrez comme pour moi avec Nagui, mais comme tout le monde, ça dépend avec qui, quoi.
Oh non, merci.
Mais vous, je suppose, enfin, il a dû être sympa avec une personne. Mais vous êtes un homme.
Mais tu parles de moi.
Oui, pareil. Mais vous êtes un homme généreux, Olivier. Je sais que vous allez quand même le faire. Alors permettez-moi de vous donner quelques conseils en cas de questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, ou comme je les appelle, des questions. On vous connaît notamment pour 36 Quai des Orfèvres, mais je vous préviens, ne bossez pas trop la question. Quelle caméra avez-vous utilisée pour la scène du fourgon qui explose ? Les gens veulent des scoops, les gens veulent des ragots, les gens veulent du croustillant. Alors, il va falloir savoir quoi répondre et quoi avec votre star. Vous avez couché avec Daniel Auteuil ? Vous n'aurez que ça. Hein ? On attend, Olivier. Bon, je suis pas mieux que le spectateur. On n'a rien à foutre de votre caméra non plus. Moi, je veux du juteux, ok ? Enfin, juteux, croustillant. J'essaie de coller au thème, mais tu sens qu'il va être midi quand même. Hein. Je vois que vous êtes dans les cordes. Laissez-moi vous aider à vous sortir de ce piège. Face à une question à laquelle on ne veut pas répondre, deux options. La première, répondre à une question par une question. À la question, avez-vous couché avec Daniel Auteuil ? Répondez, mais vous, qu'en pensez-vous ? Le spectateur vous répondra alors, je pense que oui, avant de vous sortir des photos paparazzi de vos vacances en Italie avec Daniel. Mais au moins, vous n'aurez pas répondu. Une autre option est de répondre au spectateur. En voilà une question intéressante, permettez-moi de la mettre de côté et d'y revenir à la fin du spectacle.
Ah ouais.
Voit de soi qu'à la fin du spectacle, le dit spectateur aura disparu. Vos 20 ans à fréquenter des malfrats, vous ayant laissé quelques contacts intéressants, dirons-nous. Voilà, moi je dis ça pour vous Olivier, je vous conseille de vous consacrer sur vos histoires passionnantes à la police, vos histoires dans le cinéma. Faites le show, mais de grâce, quelle que soit la signification, évitez le moment Q et R.
Merci. Lisa Delmoitier, c'est vrai que vous avez ce talent de raconter les histoires, de ménager les chutes, de rentrer dans les détails et de jouer avec ses effets et de jouer avec le public et le plaisir de faire rire.
Oui, bien sûr.
Clairement, vous aimez ça.
Oui, bien sûr.
Vous aimez déclencher
les
rires.
Moi, je fais beaucoup de films noirs, mais en fait, acteur, j'ai fait beaucoup de comédies. J'adore ça. Je viens de là, hein, surtout la formation théâtrale et tout. J'avais des emplois de valet.
J'ai découvert votre passion pour De Funès.
Oui, bien sûr.
Exemple.
Ah, ben, bien sûr.
Vous en
de Funès, j'ai des scènes enregistrées sur mon téléphone.
Pour vous mettre de bonne humeur.
Ouais, quand je vais pas bien, je me passe De Funès et je ris, mais comme un bossu. Enfin, pour moi, on n'a jamais fait mieux.
La musique est présente également sur scène. Vous êtes accompagné par un groupe.
Ouais.
Manon est au chant, Franck est au saxophone, Justine est au piano et Jérémy à la batterie. Oui. Là, est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur la musique ou c'est le travail de David
David m'a demandé quelle chanson j'aimais bien et voilà. Il joue des chansons, mais bon, il joue Bachung. Entre autres. Voilà.
Ouais, par exemple.
Mortel, ouais. Mortel. Nous sommes immortels.
Et ça ouvre même sur.
Eminem.
Mais ce titre est pas naïf. Lose yourself, c'est se perdre aussi à se raconter, à trop s'ouvrir. Est-ce qu'on risque quelque chose ? de démystifier, de démystifier justement l'image que l'on a.
Parce que moi, je crois que le public il m'aime bien pour ça, parce que pour mon franc-parler, mon côté un peu paysan aussi, parce que je suis, voilà, moi, je viens de la campagne. Moi, j'ai le syndrome, j'ai le complexe, en fait, comment on dit, le syndrome de l'imposteur. Je l'ai toujours.
Bah, tout le monde, hein.
Pas tous, non. Je vous en présenterai quelques-uns qui ne l'ont pas. Ils sont bien en place et ils sont très contents d'y être. Ils veulent même être à la place des autres. Donc moi, non, ça me joue des tours sur les réseaux, ouais, bien sûr, évidemment. Donc quand j'ai défendu la police, notamment, donc voilà, mes enfants se sont fait menacer de mort, moi aussi. J'ai reçu des menaces de mort au théâtre et tout. Ouais, c'est bon. J'en reçois à la maison aussi. Voilà,
mais encore aujourd'hui?
Ouais, de temps en temps. Ah ouais, ouais. Et puis les gens sont très méchants, quoi, aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me rend très triste.
Non, mais c'était une blague, hein, le SMS que je t'ai envoyé.
Cette nuit.
Rends-moi la balle que je t'ai envoyée par courrier.
Quand vous faites un film, moi, ce qui me terrifie et ce qui me désespère, c'est de voir cette haine. Vous faites un film, bon, vous n'aimez pas un film. Moi, quand j'aime pas un film, j'en parle avec 3-4 potes, on n'a pas aimé, pourquoi? Je vais pas me précipiter sur mon clavier pour dire c'est de la daube à fuir, quelle merde, infecte, et tout ça en critiquant physiquement les acteurs, les actrices, en fait, ça c'est intolérable.
Oui. Ce sont des gens qui sont nés, qui sont malheureux, je pense.
Pauvres types, des pauvres gens, mais bon.
Mais vous lisez?
On appelle ça les...
Non, je lis pas, mais les no life. Je commence et puis j'arrête tout de suite. Voilà, c'est... Après, heureusement, il y a les messages d'affection et tout, mais sur mon compte Insta, c'est ma fille qui s'en occupe en plus, Zoé, moi je mets une photo tous les 3 mois.
Ce qui est assez drôle, je sais pas si vous avez tenté.
Pourquoi être sur les réseaux, alors, dernière, pardon?
Parce qu'on est obligé, de temps en temps, quoi.
Pour faire promouvoir les...
C'est de la com, mais lorsqu'il y a une agression qui est autre que qu'elle soit tupue, peu importe, qui est étayée par vous avez dit ça, je ne vous aime pas et ainsi de suite, et que ça va loin, si vous répondez, ce qui m'arrive de temps en temps, je me prends comme ça un hater et je lui réponds. Très souvent, au bout du deuxième échange, c'est « Non mais en fait, je vous aime bien, je voulais pas vous embêter. » Ouais, c'était juste attirer l'attention. Ouais,
d'accord.
Alors des fois, ça peut être extrêmement méchant, violent.
Ouais, c'est les enfants, quoi.
D'autres méritent de porter plainte. Alors je sais pas si vous êtes procédurier, mais moi ça m'amuse aussi, dès l'instant où...
C'est pas procédurier, pardon, de porter plainte.
Non, mais...
Procédurier, c'est pas ça. Là,
en tout cas, c'est une procédure.
C'est pas pareil, parce que porter plainte quand on est menacé de mort, il y a un moment, faut y aller, quoi.
Mais c'est ce que je fais. Si quelqu'un, parce que maintenant les avocats de la justice et la police peuvent retrouver l'adresse IP d'un ordinateur et peuvent savoir qui a fait quoi, et puis la moindre menace de mort, j'y vais, mais sans aucune hésitation, ça donne pas grand chose, hein, généralement, on va pas se mentir,
ça donne rien,
mais ça donne au moins une convocation,
ça,
et...
c'est la police, non, je pense. petite blague
et là... Olivier Marchal est notre invité jusqu'à 12h30 et voici Camille.
Bonjour tout le monde.
Ouais, salut.
Bonjour les amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois, j'avais passé un casting.
Ah oui.
Et ben, vous savez quoi?
Non,
pas du tout. Bah non, moi non plus, parce qu'ils m'ont jamais rappelé. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai un autre cette semaine. Et oui, comme ne le disait pas Natacha Campouche, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et pour ce casting, j'ai dû envoyer une self-tape. Alors oui, j'ai bien dit self-tape. Hein. Non, je le répète, au cas où certains auraient mal entendu. Moi, j'avais très bien entendu quand on me l'a dit. Ce qui fait que je n'ai absolument pas répondu. Ok, mais c'est pas grave si je suis pas épilée. Bon. Alors, j'explique quand même le concept de la self-tape. Quand on est comédien, on passe des castings. Okay. Or, parfois, il arrive que ça ne se passe pas en physique, mais à distance. On nous demande alors de passer le casting via une vidéo tournée soi-même. On nous demande alors de réaliser une self-tape. Mmh. Et c'est toujours un moment de solitude intéressant. Toi, t'es là, à la base, tu rêves de coulisses de théâtre et d'effervescence de plateau de cinéma, et tu te retrouves seul chez toi un mardi face à ton iPhone 8 posé sur un trépied bancal. T'as demandé à un copain, à une voisine ou à ta mère de te donner la réplique. Mais bon, t'as quand même tenté un peu de mise en scène, t'as tiré les rideaux, t'as tamisé la lumière, et comme la description du personnage c'était forte mais sensible, t'as mis une écharpe. Mais pour cette nouvelle self-tape, je me suis dit que j'allais tenter autre chose ce matin. Parce que finalement, ici, on a des super micros, on a des super caméras. Ouais. On a des super comédiens pour donner la réplique. Et puis je me suis dit, si par hasard on a comme invité un grand réalisateur français qui pourrait me... Oh, mais non, Olivier Marchal. vous n'allez pas me croire, mais je ne vous avais pas vu. Incroyable, incroyable. Mais vous en faites pas, Olivier. C'est pas parce que vous êtes là que je vais chercher à vous en mettre plein la vue pour décrocher un rôle dans 36 36 qui est des Orfèvres 2, 36 bis. Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, là, alors, c'est une série policière, certes, mais on est plus sur du mainstream. En gros, l'histoire tourne autour de Joséphine Cloison, une enquêtrice aux méthodes peu conventionnelles, puisqu'elle résout les affaires grâce à un odorat surdéveloppé, tout en gérant un magasin de chaussures à la Grande Motte. Ça s'appelle Un parfum de sandales. Oh, yeah. Et là, là, c'est une scène d'interrogatoire classique. Okay. Donc, moi, je joue Joséphine. Ouais. Leïla, ma douce, avec ton énergie solaire et tes trapèzes surdéveloppés, tu feras Marco.
Okay.
Puis toi, Julie, t'as vraiment une belle présence, donc tu feras les Didascali.
Ah, allez, très sympa.
Tout le monde est prêt ? Action !
Joséphine et Marco arrivent en salle d'interrogatoire.
Pourquoi vous m'avez emmenée en salle d'interrogatoire ?
Elisa Dumont, ça vous dit quelque chose ?
Non, absolument rien.
Joséphine renifle bruyamment.
Je sens le mensonge.
Bon, on a passé 27 ans ensemble, dont 12 à faire des tutos sur Instagram.
Et pourquoi vous vous êtes séparés ?
À cause du shopping. Elle adorait les magasins sans concept.
Et pas vous ?
Non, je déteste ça.
Ah bon ? Alors qu'est-ce que vous faisiez chez Nature et Découverte ce matin ?
Mais comment vous savez ?
Vous sentez le papier d'Arménie et le télescope de jardin ?
Je voulais juste acheter un cadeau pour l'anniversaire de la sœur d'Elisa.
La sœur d'Elisa ? Élise B ? On l'a interrogé.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Oh, je peux pas vous le dire, mais disons qu'elle vous a clairement dans le nez.
Oh là là, cette salope, moi qui voulais lui offrir un canoë-kayak et un vaisselier en bois clair.
Un vaisselier en bois clair ?
Oui, comme celui dans lequel vous avez retrouvé le corps d'Elisa.
Mais comment vous savez ça ?
Marco se rend compte qu'il s'est trahi. Il fond en larmes pendant que Joséphine lui passe les menottes.
Je voulais pas la tuer. Je vous le jure. Je veux pas aller en prison.
Malheureusement, je crois que pour vous comme pour Elisa, ça sent le sapin.
Joséphine et Marco repartent de la salle d'interrogatoire.
Coupé ! C'était super, non ? Hein ? C'est super ! Oh ouais, c'est incroyable ! Incroyable ! Ah bah tiens, je viens justement de recevoir un message de mon agent. Hello Camille, je viens d'écouter ta chronique en direct. Le casting est annulé. PS, aurais-tu le numéro de Leïla Kaddour et Julie Condy ?
Sur scène.
Non mais Leïla, Leïla bientôt sur scène. Non Julie déjà. On va parler, on va recevoir tout à l'heure David Becker, donc qui est le producteur, l'initiateur, l'intervieweur aussi sur scène aux côtés d'Olivier Marchal. Je rappelle le 14 mai prochain au théâtre d'FX. C'est le théâtre d'FX de Maison, le théâtre de l'œuvre à Paris. La musique dans votre vie, Olivier Marshall, on va commencer par The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. On est au milieu des années 70. Petite parenthèse, c'est absolument pas un pénitencier qui est le sujet de cette chanson, mais c'est comme ça que ça a été traduit pour Johnny, évidemment.
Et en cette période-là, vous êtes à l'école. C'est pas simple, l'école, vous le dites, vous étiez un cancre. Et heureusement, un jour, la prof de français tombe malade, entre guillemets. Elle est remplacée. Et là, c'est votre chance.
Oui, parce que j'ai pas oublié son nom, Madame Boisiz. Alors, outre qu'elle portait des mini-jupes en cuir, et donc on était tous fous amoureux d'elle, elle nous a initiés au théâtre et elle a monté le voyage de Monsieur Perrichon,
de la biche.
Et elle m'a donné le rôle de Monsieur Perrichon et tout d'un coup... Voilà, ça a été l'émerveillement, l'intérêt, les filles qui me regardaient dans la cour. Après, j'étais une star, quoi.
La star du lycée. Ça a compté, ça ? Le regard des autres ?
Ouais, bien sûr. Ouais. Là, j'étais très mal dans ma peau, moi. J'étais très, très introverti. J'étais très solitaire comme gamin.
Et vous avez partagé ça avec vos parents, de dire... il se passe quelque chose ?
Non, parce que mes parents sont les seuls à pas être venus au spectacle, puisqu'ils travaillaient comme des bêtes. Mmh. Et donc, ça m'a un peu, évidemment, marqué. Puis après, je suis parti en pension. Et là, chez les curés, j'ai continué le théâtre. J'avais un éducateur. Et on faisait tous les spectacles de fin d'année avec mon ami d'enfance, Philippe Viau.
Ils avaient les mêmes jupes en cuir ?
Non. Non, non. Il a monté un barguet, après. Donc, si vous voulez tout savoir,
voilà. J'étais pas loin.
Quoi, les curés ? Moi, j'ai pas compris.
1980.
C'est presque. Faut pas être inattentive une seconde, hein, sinon.
Ça vite. Gangster Paradise, évidemment. Gangster Paradise, what else? On est en 1980 avec là.
Oui, et vous intégrez la brigade criminelle de Versailles.
Non, non, criminelle, justement.
C'est pas drôle, hein, là, c'est pas drôle, il voit pas ce qu'il y a de drôle.
Vous avez passé le concours d'inspecteur de police?
En oui. Jupe de cuir.
Oui. Ouais. Bien, bien, ça y est, on y est, là, on y vient. On y vient, ça y est, il revient.
C'est un concours difficile.
C'était un concours difficile.
Ça demande quelle qualité?
Déjà, il fallait avoir le bac, et bon, c'est la moindre des choses. Et le bac à l'époque, aujourd'hui, ouais. C'est bac plus 3, maintenant le concours d'officier de police.
D'accord.
Mais on était surtout, je crois, on était 10 000 à le passer, on était 600 à être reçus.
Ah oui, d'accord. Comme ça. Et c'est quoi les matières?
C'était philo. Okay. Après, moi, il y avait des épreuves d'analyse de texte français et tout, philo, et moi j'avais passé l'histoire à l'écrit, géographie à l'oral, des épreuves physiques évidemment, et puis des entretiens psychologiques après à l'oral quand on est reçu à l'écrit.
Et vous êtes passé après les entretiens psychologiques?
Oui, tout à fait.
Et quand on débarque à la brigade criminelle là, de Versailles, j'imagine qu'on a plein d'idées sur ce métier.
Oui.
Et puis il y a la réalité, il y a la dure réalité, il y a notamment, vous l'avez raconté dans une interview, la première fois où vous êtes confronté à un corps, sans vie.
Oui, oui. C'est d'ailleurs l'idée qu'on s'en fait, c'est évidemment, c'est que moi je voulais être Claude Brasseur, commissaire Fuchs dans la guerre des polices, et donc c'est la petite anecdote que je raconte aussi sur scène, où j'avais fait tous les magasins, à l'époque, comme on n'avait pas de rond, en plus j'avais acheté à crédit pour trouver la même veste en cuir que Claude Brasseur, je l'avais trouvé au Galerie Lafayette, et donc j'avais ma belle veste en cuir, et mon chef de groupe m'appelle au bout d'un mois que j'étais en service, il m'a dit en pleine nuit, je me souviens, il m'a dit, viens, on a un homicide, là, un règlement de compte sur l'autoroute, dans les chiottes d'autoroute, c'est jamais dans des châteaux et dans des trucs, hein, c'est toujours dans des endroits les pires, et voilà, et on s'est retrouvé avec un mec qui s'était fait flinguer 3 balles à la tête. Et le plus dur, ça a été de le déshabiller à la morgue de Survilliers, je me rappelle. Donc je vous la conseille, la morgue de Survilliers en février, à 3h du matin.
C'est sympa de nous commander une morgue, merci.
Voilà, c'est une ambiance. Et là, tout d'un coup, on se retrouve... c'est surtout comment dirais-je, on a l'impression de c'est l'impudeur qu'il y a, on déshabille le mec, c'est se retrouver face à un corps comme ça, il avait aucun papier sur lui, rien, on a su qu'il avait pris un avion dans la journée de Londres, et en fait, on n'a jamais trouvé l'auteur, quoi. C'était vraiment un règlement de compte professionnel.
On n'oublie jamais les premières fois en général, mais on n'oublie jamais.
Non,
après,
j'ai fait un suicide familial à Noël. Un père de famille qui a tué sa femme, son chien, ses deux petits-enfants, et qui s'est fait sauter la tête, lui. Et on a passé la nuit à patauger là-dedans avec le sapin de Noël. Et je me souviens surtout les constats sur les gamins, quoi.
Et on se dit pas, voilà. Là, j'arrête.
Déjà, je me dis, j'arrête là. Déjà, je me dis, je vais pas.
Mais dès le premier.
Mais pardon. Le premier, ça va, c'est un truc d'entre voyous, je vais
mais
dire.
Mais vous parlez de votre veste. C'est quoi
Non, mais la veste, je me disais, voilà, je me sentais un héros avec ça, voulais jouer les héros.
Ouais.
Et en fait, je me suis retrouvé encore plus à poil que le mec que j'avais là.
Et la première fois où on tire sur quelqu'un?
J'ai jamais tiré. J'ai sorti mon arme, mais pas beaucoup. En 12 ans, j'ai dû la sortir une dizaine de fois, mais c'est déjà beaucoup. Si vous voulez, parce qu'en principe, les interpellations, il y en a un qui braque, et puis après, il y en a deux.
Maîtrise.
Après, la sortir vraiment pour essayer de. Enfin, voilà, quand on a peur, c'est autre chose.
On est en 2020 déjà avec cette musique. C'est la bande originale de Flic ou Voyou, clin d'œil.
Oui.
Évidemment à ces acteurs. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ce serait l'anniversaire, c'est ça?
Oui, de Jean-Paul. C'est Victor Belmondo qui m'a laissé un petit texto. Comme il a joué dans mon dernier film, et que c'est un type extraordinaire. Sur la famille Belmondo, c'est une lignée.
C'est vrai.
Bah, ils sont une humilité, une gentillesse, un professionnalisme et tout. Je les salue là parce qu'ils méritent, et Victor mérite de faire une grande carrière.
Et 2020, c'est ce tournage avec Gérard Lanvin, Papy Sitter de Philippe Guillard. Ça aurait pu finir en bain de sang, pas du tout. au contraire, ça résonne ce tournage comme vraiment des bons moments partagés. D'ailleurs, vous prenez 9 kilos, je crois, sur ce tournage.
Ouais, on était dans les Landes. Et Gérard, comme disait Lino Ventura dans une interview, il se tient quand même mieux à table qu'à cheval. Donc c'est vrai qu'on partageait la maison Guillard, Gérard et moi, dans les Landes. C'est vrai que ça se voit dans le film. Hein, quand
J'ai une cabine avancée. C'est horrible. Horrible, mais c'était le personnage en même temps.
Oui, oui.
Mais là maintenant,
c'est le rôle qui vous
voilà.
C'est
sacrifice.
Vous êtes affûté maintenant, vous êtes en forme.
Oui, je suis comme vous, Nagui. Je fais attention
pour
à mon
être,
corps.
Pour être...
C'est vrai, je fais du sport, j'ai perdu 17 kilos. Hein,
Félicitations.
En un an et demi, là. Ouais,
le 14 mai, encore plus en forme sur scène au Théâtre de l'Œuvre, aux côtés de vous, David Becker. Bonjour et merci.
Bonjour, merci de votre invitation.
Auteur, metteur en scène, producteur de ces entretiens avec ces différents artistes et notamment au plus près d'Olivier Marchal. L'idée, alors vous avez déjà invité, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas cité, je crois, Pierre Richard, François Berléand,
Pierre Arditi, oui, absolument.
Gérard Jugnot, Les Baudins, François-Xavier Demaison.
Que des hommes.
Gérard Lanvin. Oui,
il n'y a pas de femmes qui vous disent
oui. On ne trouve pas de femmes qui acceptent.
C'est vrai?
C'est très embêtant.
Parce qu'elles estiment que c'est pas suffisamment intéressant de se raconter?
Ah non, j'espère pas, non, mais j'aimerais bien.
Trop intime?
Je sais pas.
Peut-être, allez savoir.
Qu'est-ce qu'elles vous répondent quand elles vous disent?
On va essayer avec Mathilde Seigné.
Mathilde Seigné, je fais un message à Josiane Balasco, le mec qui balance. Non, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des très grandes actrices.
Elles disent non.
Oui, c'est ça.
Après, j'ai pas tous les contacts non plus, faut bien l'admettre, mais.
Oh bah, toutes les raisons de dire je suis pas libre, pas dispo, je peux pas ce jour-là, mais après le fond du refus, est-ce que c'est l'intimité justement qui est
peut-être,
gênante.
Parce que c'est un exercice assez difficile quand même, Olivier. T'hésitais un peu au début, comme tu l'as expliqué, mais c'est vrai que là, on se lit vraiment, on est à poil, si je peux dire. Il n'y a pas de filtre, donc c'est un exercice qui est, c'est pas, on joue pas la comédie, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre.
C'est quoi justement? Parce que c'est pas non plus une émission de télé.
Non.
Ça pourrait faire penser à un late show un peu à l'américaine, c'est-à-dire il y a le canapé, il y a peut-être pas le mug, mais en tout cas il y a de quoi se.
C'est un peu ça, c'est un peu du Jimmy Fallon, du pauvre, on va dire.
Non, du pauvre, merci.
Je rigole, mon ami.
Il y a un groupe, il y a un canapé, il y a des échanges, il y a un grand écran sur lequel on projette des extraits. C'est construit, il y a un canevas, c'est structuré, et ça donne l'impression d'être très naturel et d'être totalement improvisé.
Absolument, mais ça l'est pour les artistes, parce que j'essaie de les surprendre à chaque fois, et puis j'ai le luxe d'avoir une relation vraiment d'amitié avec l'artiste avec qui je le fais. Sinon, je pense que ça serait compliqué. Je suis pas journaliste, je suis un peu artiste moi-même. Donc
un peu quand même, le boulot que vous faites, les questions que vous posez.
Voilà, je la prends sur ça, on va dire, c'est vraiment cette relation d'amitié qui se ressent sur scène. Je pense que ça fait plaisir au public, parce qu'ils sont encore plus concernés.
Oui, mais alors du coup, ça limite le nombre de personnes que vous allez pouvoir interviewer. Si
il
vous
a peut-être beaucoup d'amis.
Oui, c'est ça.
Bah à force, enfin c'est bouche à oreille grâce à ces artistes-là. Oui, ça va. Oui, après on en a fait deux avec Junior, on va peut-être en refaire. L'Ermite, je suis avec lui dimanche, on est en Suisse, on fait deux dates avec Pierre Richard et.
Ah, du fric à planquer un peu quand même. Non
alors ça demande beaucoup de préparation, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur la bio entre guillemets de l'invité et vous cherchez des anecdotes qui n'ont pas été dites.
Bien sûr, oui, j'essaie surtout de surprendre, quoi. Voilà, c'est que si on fait deux trois représentations, même une. J'essaye vraiment de saisir avec des choses qui n'ont révélé nulle part ou
qui n'ont pas été dites déjà et entendues.
Donc à chaque fois faut surprendre aussi bien le public que l'artiste et pour l'instant je touche du bois, ça marche et j'ai surtout la confiance des artistes d'Olivier.
Est-ce que
c'est un vrai cadeau?
Ça pourrait être une émission de télévision?
C'est une proposition, Nagui, peut-être.
Non, c'est une question. Ou est-ce que justement ça doit rester dans un cadre de spectacle, un cadre privé,
spectacle vivant,
pour être justement sans filtre et pas se dire qu'est-ce qu'on peut dire à la télé, qu'est-ce qu'on peut pas dire à la télé.
Oui, c'est vrai. Mais après
là, vous avez une liberté de boire de l'alcool sur scène, de
non,
de
pouvoir, Olivier, non.
Si,
de on pouvoir, boit un verre sur scène. Non, vraiment, il n'y a qu'un verre.
Je sens que c'est une plainte.
Non, pas du tout. On boit avant. Surtout.
Mais c'est un pichet.
Bien sûr. On est plus libre, on est beaucoup plus libre sur scène. On est beaucoup plus libre sur scène. Et puis, il n'y a pas le filtre, il n'y a pas l'écran, parce qu'avec Netflix, avec tout ça, maintenant, c'est que sur les écrans. Et là, justement, on propose, enfin, des masterclass, tout ce qu'il y a sur YouTube. Voilà, les gens sont derrière leur écran. Là, c'est vraiment du vrai, quoi.
Alors, justement, je disais tout à l'heure à Olivier, pourquoi ne pas rajouter un peu de fiction à l'histoire? Pourquoi ne pas grossir certains traits pour l'effet, puisque c'est un spectacle?
C'est vrai. On avait prévu une petite mise en scène, parce qu'on va faire d'autres dates avec Olivier, j'espère, à la rentrée, mais on avait prévu une petite mise en scène où l'arrivée en peignoir Edouard, mais on n'a pas fait ça. Et on aurait joué un peu l'ami qui vient chez Marshall, qui le dérange et puis qui se livre durant toute la soirée avec une cassure, avec un quatrième mur qui serait cassé au bout d'un moment. Mais
est-ce que de le faire plusieurs fois change aussi votre manière de le faire? Est-ce que vous vous rendez compte de certaines punchlines qui marchent mieux que d'autres et vous prenez plus
même
de
Olivier,
temps
même
ou de
Olivier,
la spontanéité qu'on peut perdre aussi peut-être à refaire l'exercice.
T'avais peur de ça, Olivier, toi?
Mais en fait, pour l'instant, c'est pas arrivé.
Franchement.
Après, moi, comme des anecdotes, j'en ai plein. David, lui, il me met sur une.
Vous aiguille.
Que je répète et que je retransforme. C'est là où la fiction, elle intervient. J'en rajoute un peu. Parce qu'il y a même les musiciens qui sont avec nous tous les jours qui doivent se faire chier. C'est ce que je dis. Je dis, les pauvres, les quatre, ils attendent de jouer leurs morceaux à chaque fois. Ils m'écoutent raconter toujours les mêmes histoires. Donc, j'essaie de changer moi et puis de divers.
Déjà pour vous surprendre vous-même.
Oui, aussi.
Et pas répéter. Après, il y a un autre problème pour les émissions de télévision, c'est les droits des films que vous passez, que vous projetez, des extraits, parce que là, il y en a quand même beaucoup, c'est très alimenté en termes d'image aussi.
Absolument, oui, absolument, mais oui, à la télé, ça serait vraiment compliqué, ça serait peut-être un budget pharaonique, quoi, donc... Mais on essaie quand même que ça soit beaucoup plus de discussion, c'est vraiment, les extraits, ça commente, ça pimente, ou ça justifie...
Et ça fonctionne, hein, en tout cas. C'est signé David Becker, auteur de... co-auteur, j'ai envie de dire, parce que...
Ah oui, c'est... Oui, oui.
Il y a une grosse part à porter aussi.
C'est aussi un très très bon chanteur. Vraiment, mais un excellent chanteur. Il chante Johnny Hallyday.
Allez, c'est parti.
Vraiment.
Non, tout de suite, non. Non. Oui,
vas-y.
Il a dit non.
Il est sur France Inter. Non.
Allez,
merci. Merci, David.
Merci.
Voici
beaucoup,
tout de suite Julie Conti.
Alors, cette crise économique mondiale, ça se passe bien ?
Ouais,
je crois qu'il faut se changer les idées. Du coup, moi, je vais vous parler du procès Bayer-Monsanto, accusé d'avoir causé des graves malformations du larynx et de l'œsophage de Théo à la suite d'une exposition in utero du glyphosate. Ou alors j'ai dit que j'allais changer les idées, hein, pas qu'à personne.
Sympa.
Théo a 17 ans, a déjà subi 55 opérations, il respire et parle aujourd'hui par un trou dans la gorge. Hein, vous rendez compte, 55 opérations. Ben voilà, Bayer Monsanto est donc responsable du trou dans la gorge de Théo et dans celui de la Sécu. D'ailleurs, en 2022, le Fonds français d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu le lien possible entre le glyphosate et la malformation de Théo, qui perçoit depuis une indemnité mensuelle de 1000 euros. Voilà, si vous demandiez combien coûte un œsophage et une trachée en bonne santé, c'est 1000 balles. Bon, c'est le tarif organisé de Colombien. Je crois qu'il s'est fait rouler le petit Théo. Sur le Darknet, ça doit taper dans les 10 plaques, un truc pareil en vrai. Alors, je vous rappelle, le glyphosate, c'est ce qu'on appelle un désherbant non sélectif. Hyper efficace pour se débarrasser de toutes les mauvaises herbes et accessoirement de la trachée de Théo, quoi. Le glyphosate a été déclaré comme génotoxique et cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Et pourtant, en 2023, la Commission européenne a renouvelé son autorisation pour 10 ans. Bon, le principe de précaution au Parlement européen, en fait, c'est du PQ triple épaisseur. Hein, il se torche avec. La seule santé qui leur importe, c'est la santé financière des groupes agroalimentaires. Et en 2017, Macron s'était engagé à interdire le glyphosate en France sous 3 ans. Ouais. Et est-ce que j'ai besoin de terminer la phrase pour que vous deviniez ce qui s'est passé? Le lobby agrochimique, dès qu'ils ont entendu Macron faire une promesse, ils ont fait péter le champagne. C'est bon les gars, il y a Manu qui a promis qu'il faisait un truc, on en a au moins pour 15 ans tranquille devant nous, quoi. Et c'est pas avec la ministre de l'Agriculture qu'on se tape depuis fin 2024 que ça risque de bouger. Annie Genevard, vous connaissez, hein, elle est décrite par les ONG écologistes comme pro-chasse, pro pesticides, pro-élevage intensif. Et en 2023, elle a même défendu le glyphosate sur Twitter. Ah ben, on est loin de l'ambiance bucolique de la petite maison dans la prairie avec Annie. Hein. D'ailleurs, si Annie Genevard avait été au scénariste pour la petite maison dans la prairie, ah ben, la petite Carrie, dans le générique, c'est pas au milieu d'un champ de fleurs qu'elle aurait couru, mais dans un hangar rempli de 10 000 poulets qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Et le pauvre Charlie Gall, s'il serait mort à la fin de la première saison, d'un cancer de la prostate à cause d'une surexposition aux pesticides. Sympa, hein, l'ambiance. En plus, sa proximité avec les lobbies agroalimentaires pose problème. Du coup, moi, je voulais vous présenter quelqu'un aujourd'hui. Ah. Regardez qui est là. Annie, la marionnette des lobbies.
Oh non.
Vous comprenez, c'est donc une métaphore. Moi, je suis lobbyiste et je fais dire à Annie, la marionnette, ce que je veux parce que j'ai le bras bien profond dans sa cuve à pesticides. Bonjour, Annie.
Salut, les éco-terroristes.
Alors, Annie, tu voulais dire quelque chose à Nagui?
Oui, Nagui, je sais que t'es végétarien, mais t'inquiète pas, dans les élevages industriels, on file tellement de merde aux poulets qu'il n'y a presque pas de viande dedans.
Je crois qu'Annie, tu voulais nous chanter une petite chanson?
Oui, je vais chanter avec Olaf. Il est où le ménestrel nourri aux hormones, là? Ah, t'es là? T'es prêt? Ok, on va y aller. Annie aime le glyphosate et écoutez les lobbies. La santé et l'écologie, c'est pas dans ses soucis.
Merci. prochaine au salon de l'agriculture, celle-là. Alors oui, moi je chante faux, mais j'ai de la chance de pouvoir le faire parce que moi, contrairement à Théo, j'ai encore ma trachée. Alors on dit merci qui ? Merci Bayer Monsanto.
Bravo.
Le 15 avril à Paris, Julie. À la Petite Loge, le 9 mai à Fribourg, le 10 mai le lendemain, c'est-à-dire à Genève.
Julie Conti. Et Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler dans la dernière demi-heure ?
D'une autre ministre, Elisabeth Borne, qui a dit que dès la maternelle, il fallait penser à son métier ou sa formation. Cette dame n'a plus conscience des différentes étapes de la vie, je crois.
Olivier Marchal est notre invité jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Leïla Kabobo-Dédine, Isabelle Moitié-Camille, Nazar, Julie Conti, Old Lab, Tanguy Pastureau, Daniel Morin. Et notre invité, c'est Olivier Marchal.
France Inter,
Olivier Marchal.
Bande originale, Leïla Kabo et Nagui.
Au plus près d'Olivier Marchal, un nouveau concept, enfin c'est pas nouveau parce qu'il y a eu beaucoup d'invités, mais en tout cas dans le style, je pense pas que ça ait beaucoup été fait, cette notion de passer une heure et demie, deux heures avec un artiste, un entretien, mais aussi un spectacle, donc il y a des images, il y a des extraits de films, il y a des chansons, il y a des musiques, et puis il y a des histoires qui sont construites pour arriver à un effet. Parce que l'histoire est peut-être vraie, mais il y a quand même toujours une chute et généralement des écadrilles.
Est-ce qu'en fonction des soirées, ça change la durée ? Est-ce que ça peut durer une heure et demie, deux heures,
On est monté à deux heures et demie, ouais.
On est monté. J'ai l'impression que le mec a accéléré sur le moteur.
Non, en fonction des salles, oui, bien sûr. Oui, mais c'est après. Après, il ne faut pas faire plus, quoi, parce que bon. C'est comme tous les spectacles de théâtre, je crois deux heures c'est déjà bien. Bon après, là c'était vraiment très très sympa.
Anecdote qui mélange encore une fois votre vie intime et votre vie professionnelle.
Oui, oui.
Vous êtes sans filtre ou il y a des domaines sur lesquels vous voulez absolument pas parler, justement très personnel, très la famille par exemple.
La famille, non, j'en parle pas. Voilà. Non, j'en parle. Je fais une petite allusion aussi, à ma fille Zoé, comme elle est comédienne et tout. Mais à leur maman aussi, la maman de mes enfants qui est comédienne. Mais non, là, l'intime, non, j'en parle pas. Non, mais même l'intime de.
C'était une limite que vous avez fixée, justement, à David Becker.
Oui, pour être indécent non plus. On va pas raconter les soirées, même les fêtes qu'on fait entre. Après, je raconte les grosses anecdotes de tournage, quoi, les grosses conneries, quoi. Voilà.
Mais sans vous poser la question de la décence ou de l'indécence, d'ailleurs, parce que c'est sans limite.
Oui, là. C'est sans limite, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, je raconte une anecdote. C'est quand vous lisez le livre, j'ai dit aux gens, lisez le livre de Jean-Paul Belmondo. Il a écrit qu'un seul livre. Il raconte ce métier que à travers les conneries qu'il faisait. C'est pas du tout le côté très la souffrance de l'acteur, la psychologie du personnage et tout. Jean-Paul, il s'en foutait. Il voulait s'amuser. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Georges Lautner, tout ça. Donc je raconte tout ça et je raconte.
Vous l'imitez même sur scène, Lautner.
Oui, avec son petit cheveu sur la langue. Ouais. Oui, c'est parce que lui, il me disait tout le temps. Mais Lino, il arrivait. Alors, il demandait qu'est-ce qu'il y a à bouffer alors sur le tournage. Alors, Venturel, il allait voir à la cantine. Il disait, oh, puis, alors, il disait, il mettait son tablier, il partait à la cantine. Et Lino faisait les pâtes à la Lino pour
c'est
tout
lui
le monde. C'est lui qui cuisinait donc de 8h à midi. C'est-à-dire, il tournait pas. Hein. Donc après, il bouffait. Donc il faisait venir les gardiens d'immeubles, les employés municipaux, les clochards. Il sartillait jusqu'à 16h. Et puis Georges, il me disait, ça ne vous a pas empêché de faire des chefs-d'œuvre. Il me faisait. Et il était monstrueux, Georges. Moi, je l'adorais. C'était un amour. C'était un puits d'amour.
Mais ça, pardon, vous êtes réalisateur.
Oui.
Vous tournez un film.
Oui.
L'acteur arrive en disant il y a quoi aujourd'hui à la cantoche.
Moi, m'est arrivé de le faire moi, ça. Non, mais comme réalisateur, j'ai dit bon, les gars,
mais vous pouvez pas
des
perdre
du vin blanc.
Pas perdre des heures et des heures.
On a perdu 4 heures. Si, ouais, on s'est fait dégustation et tout.
Il y a pas des petits rôles qui restent. Même la figure.
Mais l'après-midi, on avait des séquences faciles. Il n'y avait pas de texte. C'était juste des, comme on appelle les Insta. Donc, on faisait des plans de situation et tout, donc je savais qu'on avait le temps. Voilà, on est sérieux quand même.
Vous parlez beaucoup des rencontres, des bonnes nouvelles qui ont émaillé votre carrière professionnelle, doublement professionnelle. Est-ce qu'il y a des très 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 mauvais souvenirs que vous n'évoquez absolument pas ?
Oui.
Je parle pas simplement de ce qui fait rire, c'est-à-dire l'acteur justement qui se comporte mal, que vous virez ou que vous baffez. Oui. Je parle vraiment de mauvais souvenirs, quoi, des regrets presque.
Des regrets en tant qu'acteur, j'en ai plein. J'ai pas fait que des chefs-d'œuvre hein, comme acteur, mais même comme réalisateur, on aime ou on n'aime pas mes films.
Ouais, mais là c'est pas grave.
Après, on se remet toujours en question, évidemment. Moi, j'ai toujours le doute. Et puis, quand je vois des réalisateurs comme Inarritu, comme même, enfin Claude Lelouch en France, et que c'est, je que j'ai la chance que j'ai eu la chance de connaître un peu, mais je me sens tout petit, moi, vous voyez, quand les Michael Cimino, Sergio Leone et tous mes exemples, en fait. Après, des regrets, on en a sur avoir accepté certaines choses, ouais, peut-être dont on n'est pas très fier.
Ce qui est assez admirable, en tout cas, c'est que chaque fois que vous racontez quelque chose, il y a toujours des noms que vous citez.
Ouais.
C'est-à-dire que la vie sans les autres n'aurait pas du tout le même goût. Ça ne repose pas sur votre écriture, sur votre talent, sur votre mise en scène. Ça repose sur votre admiration,
ouais,
sur le partage, sur la présence d'autres acteurs.
Ouais.
Il y a toujours, il faut toujours qu'il y ait du monde autour de votre table, en
oui,
tout cas.
Toujours, ouais, toujours. Ben, j'aime pas être seul. Là, je vais partir tout seul pendant 3 semaines. Je l'ai déjà fait, mais je me mets au repos.
Ça s'appelle une cure, ça, monsieur.
Une cure de repos, oui. J'en fais une, j'en ai déjà fait une très bien, mais je vais écrire. Là, je travaille beaucoup et puis on se retrouve un peu avec... Mais d'être entouré tout le temps, moi, c'est vrai que j'enchaîne... Là, depuis 5 ans, j'ai dû prendre 3 semaines de vacances, quoi. Donc, c'est vrai, je suis rincé, quoi. Et j'ai enchaîné tous les projets. Et à force, c'est vrai qu'on, j'ai pas envie de muser, quoi. En fait, j'ai 66 ans, mais j'ai encore 3-4 ans. Après, j'arrêterai, je pense. J'ai envie d'être contemplatif, quoi.
Vous êtes capable d'arrêter?
Oui, oui, ouais, vraiment.
Vraiment?
Oui.
Tous
les crédits sont payés. la maison sera payée, les enfants seront à l'abri définitivement.
À l'artiste. Voilà,
non, franchement, puis je trouve qu'aujourd'hui,
il a envie de kiffer des moments, quoi. Ouais. C'est ça.
Oui, moi je suis très bien avec Netflix. On pense qu'on veut des plateformes. Moi, ils sont ultra, ultra corrects avec moi. Ils ont plein de projets avec moi. Ça, on a la chance de pouvoir être, nos films soient visionnés dans le monde entier. C'est une chance.
C'est le cas de Bastion 36, qui est un succès.
Oui, Bastion, ouais. Bronx, Pipax, Massilia, c'est des cartons à l'étranger.
C'est pour ça qu'ils sont sympas avec vous aussi.
Pardon?
C'est pour ça qu'ils sont sympas avec vous.
Oui, parce que ça fonctionne. Ils n'ont pas été avec tout le monde.
Non.
Ouais. La réussite, la carrière et les anecdotes croustillantes d'Olivier Marchal, c'est sur scène le 14 mai au Théâtre de l'Œuvre pour être au plus près de lui. Voici Tanguy Passureau.
Bravo. Au plus près de Tanguy. Je ne sais pas à partir de quel âge vous avez des souvenirs de votre enfance. En fait, je m'en tape. En plus, c'est mon moment. Donc, si chacun se met à raconter sa life, cet espace égotique va devenir une démocratie burk, comme dirait Kim Jong-un. On a tous un souvenir à la maternelle, par exemple. Olivier Marchal, ça doit être en petite section, quand il a fait une clé de bras à Stéphane de la classe des grands, la fois où il a vu voler une craie de la maîtresse. Daniel Morin, c'est sûrement le jour de sa naissance, dans le studio 104 de France Inter, où, nourri au sein par une équipe tournante d'intermittents du spectacle, il passera toute sa vie. Moi, j'ai plusieurs souvenirs de maternelle. Souvenir numéro 1, dans la classe, il y avait un vivarium avec un phasme, un insecte qui ressemble à une branche d'arbre. Parfois, on confond. Une fois, le roi Merlin, j'ai acheté une table de jardin en bois, je la mets dehors le matin, je veux prendre mon ricoré dessus. Plus de table. En fait, c'est un phasme géant de forme rectangulaire. Et bon, bah, un jour, le phasme de l'école est mort, ce qui lui donnait la même allure que quand il était vivant. Alain Juppé, ça fera pareil. Et j'étais triste. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vivre intensément. Je me suis mis à brûler la vie par les deux bouts, à tourner à 4 laits fraises par jour, à claquer tout mon argent dans des calots bleus transparents. Enfin, souvenir numéro 2 de la maternelle, c'était l'époque où on n'achetait pas des pulls, mais des pelotes de laine, et c'était les mères qui tricotaient les pulls. Ça ressemblait jamais à ce qu'on voulait. Tu demandais un motif Snoopy, t'avais un chat. Tu demandais un schtroumpf, t'avais un bonnet avec en dessous un amas de chair bleue. Hein, le schtroumpf qui a tenté le vélib dans le couloir partagé bus-vélo. Sachant ça, j'ai demandé à ma mère une reproduction d'un Picasso, et là, c'était parfait. Souvenir numéro 3, un soir à la sortie de l'école, la marque Panini est venue nous offrir un cahier d'autocollants Tom Sawyer avec 2 paquets d'images gratuits. Il y a toujours ça devant les écoles aujourd'hui, mais avec de la coke. Alors, le principe était le même. Hein. Tu devenais accro, tu rêvais d'avoir pour copain un punk à chien qui dort dans les arbres, comme Tom Sawyer. Tu disais, moi aussi, j'aurais bien des esclaves. Hein, en 82, dans le Finistère, on était contre blanc, mais s'il y avait eu un seul noir, je lui aurais demandé de porter mon cartable, je pense. Hein, parce que moi, j'ai toujours été marqué par ce que je voyais à l'écran. Quand j'ai vu le film L'Ours, pendant 2 ans, j'ai bouffé du miel. Quand j'ai vu Pulp Fiction, je me suis dit ne pas faire de date avec la femme d'un gangster. C'est pour ça que jamais j'ai contacté Isabelle Balkany. Et avant-hier, en zappant, je suis tombé sur LCP, la chaîne parlementaire, qui va prendre la place de C8. C'est-à-dire qu'on va passer de Hanouna à ça. Ça revient à sortir de 4 ans de fiesta en slip à Ibiza et d'emménager chez les Amish. Donc LCP recevait Elisabeth Borne, à part 3-4 profs, personne ne le sait, mais enfin cette dame est désormais ministre de l'éducation nationale. Elle a fait tous les ministères, écologie, transport, travail, elle était première ministre. Enfin, son CV en longueur fait la même taille que 16 rouleaux de papier toilette dépliés. Bref, sur LCP, on lui demande ce qu'elle pense des propos de François Bayrou. elle répond François qui, j'imagine, parce que Bayrou, pareil, on le voit de temps en temps à la télé, mais à chaque fois, il faut réfléchir pour se rappeler ce qu'il fait. Il devrait porter un badge, comme chez Quick, avec écrit François, chef de travaux en pause permanente, pour qu'on sache qui c'est. En fait, Bayrou a critiqué Parcoursup, vous savez, la plateforme imbitable dont personne n'a jamais compris le sens. Il pense qu'elle impose, je le cite, une orientation précoce, puisqu'on doit savoir ce qu'on veut faire dans la vie de plus en plus tôt. Alors qu'avant, on avait le temps. Moi, ça m'a pris 10 ans de comprendre que je voulais devenir la star de l'humour francophone. D'accord, c'est raté, comme la plupart des projets. Mais voyez, ça met la pression sur les élèves, sur les parents qui en font des bêtes de concours. En fait, personne n'est heureux avec ça, à part Glamark Sandoz qui distribue le Xanax. Oui, ça paraît travaillé comme chronique, mais il m'a suffi de regarder dans le tiroir de ma table de chevet entre le Séroplex et le Larzolig. J'ai fait un semaini, en fait. Et François Bayrou dit, et je trouve que c'est juste, que ceux qui sont mûrs plus tard que les autres ne disposent pas des mêmes chances. Moi, j'ai fait 30 jobs avant de percer dans le showbiz. Bon, à chaque fois, je réalisais que j'étais pas du tout fait pour ça. Mes boss me le disaient d'ailleurs, hein, tout en me poussant vers la porte de l'entreprise avec une fourche et un taser, alors que leur berger allemand avançait vers moi en grognant. Mais Elisabeth Borne, les failles, les hésitations, elle connaît pas. C'est Terminator, elle avance, un ver de terre. Vous lui coupez les pattes, elle dit rien à foutre. Elle fout son tronc sur un skateboard. Elle continue. Lundi, sur LCP, elle a dit... Il faut se préparer très jeune, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont les élèves se projettent dans une formation ou un métier. Mais enfin, madame, je vais paraphraser Pink Floyd. Leave the kids alone. Chaque chose en son temps. L'enfance, on découvre, on apprend, on s'amuse. Ensuite seulement, on entre dans ce système mortifère où on perd sa vie à tenter de la gagner. En maternelle, on joue avec son zizi, on bouffe des pépitos. Donc on va faire quoi avec ça niveau orientation? Envoyer la moitié de la classe vers une carrière de tenancier sex shop et l'autre moitié à la chaîne chez Lu, à étaler le chocolat sur les biscuits. Mais je trouve ça tellement triste, le fait de n'être envisagé que comme de futurs actifs. On est tous tellement plus que ça. Moi, à la maternelle, je voulais devenir pompier et vétérinaire, comme 80% des moyennes sections. Donc, je vous le dis, on va jamais avoir assez de chiens, ni de bâtiments en feu, ni de chiens en feu, pour juguler la masse de pompiers et de vétérinaires qui vont arriver dans le futur. D'autant qu'en 15 ans, le temps que l'enfant grandisse, avec les technologies, le monde a le temps de changer 10 fois. Le métier auquel rêvent les maternelles aujourd'hui n'existera peut-être plus en 2040. Il restera juste celui de ministre de l'Éducation nationale, mais quand on voit les personnes au visage triste et sans rêve qu'ils y mettent aujourd'hui, je suis sûr que tous les enfants ont envie de quelque chose de vraiment mieux plus tard pour eux-mêmes.
Bravo. Bravo.
Si Elisabeth Borne veut aller voir Tanguy Pastureau, et si elle est à Biarritz, ça tombe bien parce qu'il y sera dimanche et mercredi, il sera à Clermont-Ferrand.
Elle apprendrait plein de choses. Mmh. Qu'elle y aille. Olivier Marchal est au théâtre, sur scène également, le 14 mai. En l'occurrence, au théâtre de l'œuvre. Le plaisir d'être sur scène, de faire rire, de partager, de se raconter. Et peut-être de s'analyser. Il y a une forme un peu psychanalytique aussi. On en apprend sur soi, en se racontant comme ça et en voyant la réaction des gens.
Je suis toujours un peu, je sais toujours pas qui je suis vraiment, quoi. Mmh. Franchement, j'ai pas les réponses.
D'autres événements.
C'est pour ça que je pars en cure, en dehors.
D'autres événements culturels, elle est là.
On va parler d'une collaboration entre deux grands réalisateurs. Ça va concerner la suite du long-métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il en sera le scénariste pour la suite, mais il va laisser sa place derrière la caméra.
Rodriguez ?
À non. Quelqu'un d'autre, un autre grand réalisateur. Un réalisateur qui connaît bien Brad Pitt, qui sera lui aussi au casting.
David Fincher.
J'ai pas entendu.
Fincher.
Absolument, ah. C'est Fincher qui prend le relais.
Oh, mais il y en a deux réalisateurs là, ou un seul?
Non, un seul, ouais, puisque Tarantino reste au scénario.
Il va absolument pas se mêler.
Ah, il fait le scénario, l'autre il laisse vraiment la place vers la caméra. Il se retrouve ainsi avec Brad Pitt après Seven, Fight Club, ouais. L'étrange histoire de Benjamin Button. On a là une sorte de grande collection qui commence à s'annoncer, c'est quand même pas mal en termes d'affiches. Est-ce que dans les réalisateurs, on a un peu évoqué, vous l'avez évoqué aussi dans ce spectacle conférence, les acteurs que vous aimez, les réalisateurs que vous aimez, du côté américain, est-ce qu'il y en a un en particulier qui se distingue?
Moi, je suis un fan de Michael Mann, mais après, c'est vrai que Fincher fait partie aussi des grands réalisateurs. Après, j'adorais Sidney Lumet, j'ai eu la chance de lui remettre un prix au Festival de Deauville. C'était super émouvant. Et voilà, non, après j'adorais Cimino, Michael Cimino.
C'est Cimino à qui vous enviez le plus certains cadres, certaines façons de montrer
l'action.
C'est Michael
Mann. C'est Michael
Mann, ouais, sans aucun doute. Il y a des, j'imagine qu'il y a des plans comme ça qui vous restent en tête pour l'éternité.
C'est l'ouverture de Hit avec on est derrière De Niro qui traverse tout l'hôpital là et tout ça, c'est exceptionnel avec l'escalator, tout ça. Bon, et puis ce braquage de fourgon quand même. Non mais le braquage, il est extraordinaire. Quoi. Il a inspiré.
Vous essayez de reproduire.
Oui,
de...
Moi, il m'appelle Marcel Mann, moi, même technicien. quand j'arrive, donc c'est la grosse blague. Tiens, voilà Marcel Mann. Parce que moi, j'ai fait un petit braquage de 36, braquage du pauvre.
On
a eu une journée pour le faire. Mais...
Pas mal, Stanley Lubrick.
J'ai une belle image.
La belle image.
Pardon. La suite. C'est pas une question, mais on va parler des prisons. Dans l'actualité, on parle beaucoup de la création de prisons haute sécurité. C'est un peu l'engagement actuel du gouvernement. La France fait partie des plus mauvais élèves en termes de surpopulation carcérale. J'aimerais qu'on parle d'une association dont vous êtes le parrain.
Oui, Conscienta. Oui.
Conscienta, c'est ça, Conscienta. Ouais,
ouais. C'est quoi la conscience?
Je parraine, c'est là pour la réinsertion d'anciens détenus et tout ça.
Donc oui, mais la traduction, c'est.
Je crois que c'est la conscience.
C'est conscience en italien ou en espagnol?
Je sais pas. Italien, je pense.
Italien.
T'en sais rien.
Il a fait le mot.
Il faut prendre une décision.
C'est une association intéressante. Je suis allée me documenter. C'est une association qui aide à la réinsertion des anciens détenus. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que 80% des détenus qui sortent de prison se retrouvent souvent à la rue. Ils n'ont pas de ressources, pas de famille, souvent. Où ils n'en ont plus, où c'est compliqué, pas trop de repères, et on considère que ce problème-là est simplement leur problème à eux. Or, c'est le problème de la société, puisque ensuite, les situations de récidive sont sans doute beaucoup plus faciles, et donc et le problème ne fait que s'agrandir. Là, cette association, Conscienta, qui réinsère ses anciens détenus, vous la parrainez depuis longtemps ?
Non, depuis une année, c'est... Vraiment, elle est animée par des gens formidables.
C'est Gilles Martin qui l'a créée, ancien boxeur, qui est passé par la case prison.
Voilà, exactement. Et moi, j'ai été très ému parce qu'il y avait le soir où on est allé, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour des mécénats, quoi, pour les aider. En fait, ils ont racheté, ils louent, je crois, un ancien hôtel où ils mettent tous ces gens qui sortent de prison. Il y a une cantine, ils se font la popote eux-mêmes.
Resto. Hein.
Et alors ça, il y a parfois des frictions et tout ça, mais c'est le but, c'est de pas les laisser à la rue, puis de leur trouver un boulot. Donc c'est
d'éviter qu'ils replongent.
Ouais. Mais moi, j'étais très ému parce que c'était vraiment des jeunes qui était là, et il y avait d'anciens qui avaient réussi la réinsertion, dont un qui avait monté sa boîte de bâtiment dans le BTP. C'était assez touchant puis de voir, c'est des gamins quoi qui sont vraiment les larmes aux yeux, parce qu'ils sont parfois des gamins qui ont pris un an pour trafic de stup, ils ont fait une année déjà, c'est beaucoup, hein. Une année en prison, c'est long, hein. C'est la tôle, c'est quelque chose de particulier, évidemment,
puis, surtout dans les conditions actuelles de détention.
Ouais, puis moi quand on tourne des scènes de prison, je me refuse à aller tourner là où les prisonniers. On cherche des prisons désaffectées, parce que c'est on arrive avec nos sabots, nos gros sabots. J'aime pas trop déranger les.
Est-ce que la seconde chance existe pour les artistes?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire d'avoir commis quelque chose qui était condamnable et qui a été condamné.
Ça, je sais pas.
Et que l'artiste puisse revenir, que ce soit derrière une caméra.
C'est-à-dire que les artistes doivent montrer l'exemple. Je suis d'accord, mais bon, si vous voulez.
C'est le public qui finit par juger, non? C'est-à-dire que si le public n'est pas au rendez-vous.
Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que l'artiste, il est évidemment très exposé, quoi.
Non, mais c'est un vrai sujet, parce que...
Oui, c'est pas
le
sujet
du public, puisque Quentin, le public était à nouveau au rendez-vous.
Mais le sujet de Quentin, c'était aussi de ne pas faire la une d'un magazine avec des affiches placardées partout.
Ah oui, non.
Mais... Lui interdire de continuer à chanter, ça me semble difficile, légalement. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de se produire. Après, tu peux y aller, pas y aller, pour plein de raisons. Si tu ne peux pas non plus... sinon, c'est une double peine, et ce n'est pas exactement ça l'histoire non plus.
Non, bien sûr, mais en tout cas, le public, là, était au rendez-vous, et je ne juge pas en bien ou pas bien, mais...
Non, mais on avait juger en l'occurrence
la une du magazine.
Ceux qui les enroquent de mémoire qui avaient fait la une sur Quanta, comme on pouvait reprocher à d'autres de ne pas le programmer à la radio dans des émissions en disant ah oui, donc vous ne croyez pas à la seconde chance, mais là encore une fois, c'est chacun
oui, non, c'est avec, ça, soi-même.
Avec son prisme.
Enfin, c'est chacun avec
absolument.
Soi.
On parlait de Bastion 36, qui est un succès sur Netflix. Encore bravo pour ce Bastion 36, qui est promis un avenir, c'est-à-dire qu'il y a des...
Bastion 37.
Il y a des suites. 36 bis.
Non, c'était un petit clin d'œil à 36, qui est des Orfèvres, 20 ans après. Quoi.
C'est votre chiffre porte-bonheur. Oui, sur une grille de loto, il y a du 36.
Oui, oui, exactement.
Bah, par contre, Pax Massilia, là, il y a une saison 2.
Oui, je viens de finir de la tournée, de la réaliser. Là, elle sortira en décembre, novembre ou décembre.
Énorme succès également sur Netflix. Vous voulez travailler sur une comédie, puisque tout à l'heure, vous avez dit, j'aime faire rire, justement. Est-ce que ça fait partie de vos envies ou non?
D'écriture. Je suis sur la réalisation d'une comédie avec Jason Chicandier. Donc, voyez, on bascule quand même dans un autre univers. Et Michael Youn. Et puis là, j'ai...
Et Papy Sitter.
Papy Sitter...
suite ou pas suite?
Ben, on ne sait pas, on attend toujours. Et là, j'ai adapté une pièce d'Anne Fanté en long métrage. C'est un week-end en famille qui bascule à cause de l'alcool, mais dans c'est plutôt dans du délire. C'est du Dan Fanté, quoi. Et j'ai envoyé le scénario à Jeff Bridges, donc pour le rôle principal. Oh, ouais. Voilà, j'attends sa réponse.
Et
ça, c'est pour tourner des Américains en France.
Vous aimeriez jouer avec Zoé, avec votre fille?
Oui, c'est dans les tuyaux. Ouais. Ouais, c'est dans les tuyaux.
Ça serait chouette, ça, non?
Oui, oui. Oui, oui, on a un projet de comédie, ouais, un peu dans l'esprit du sauvage, le film avec Yves Montand et Catherine Deneuve.
Parfait.
Sans nous comparer, évidemment. Mais c'est l'histoire d'un ours mal léché, puis il y a une nana qui vient lui casser les burnes. Et puis voilà, puis ça part, voilà, lui, il veut être tranquille. Et puis...
Tu ferais quel rôle?
Des excuses!
Avec la mini-jupe de Madame Boisine, c'est ça.
Voilà. Des excuses à présenter, Daniel Moore.
Alors, désolé déjà pour Steven Spielberg, qui n'a pas été invité, qui pourtant voulait nous dire qu'Olivier Marchal avait été sa plus belle rencontre. Steven qui m'a confié en larmes que cette aventure romantique qui a duré 6 mois avec Olivier, il ne l'avait jamais oublié et que souvent au soleil couchant sur la baie de San Francisco, il repense à vos échanges enflammés à base de tendresse, de tequila et de menottes. Vous lui manquez, Olivier. Désolé pour Gérard Lanvin qui n'a pas été invité et qui pourtant voulait nous dire qu'Olivier Marchal avait été sa plus belle rencontre. Un Lanvin qui m'a confié en larmes que cette aventure romantique qui dure depuis 6 ans le comblait encore comme au premier jour et que souvent, au soleil levant sur le corps d'Olivier allongé dans la garrigue, il se dit qu'il est le plus heureux des hommes. Il aimerait même vous passer la bague au doigt, Olivier. Désolé enfin pour Madame Bouaziz, l'ancienne prof de notre invité, qui n'a pas été invitée et qui pourtant voulait nous dire qu'Olivier Marchal avait été sa plus belle surprise scolaire. Une Madame Bouaziz qui m'a quand même confié en larmes, même si sa mini-jupe en cuir est très bien portée par Olivier Marchal. Elle aimerait bien la récupérer pour la prêter à Gérard Lanvin qui doit jouer dans un rôle de dame pipi dans un film intitulé Passe-moi l'équipe, c'est pour une urgence.
Ah, c'est magnifique. Wow, quel résumé. Merci Olivier,
merci à vous
beaucoup. Bonne soirée, bon spectacle le 14 mai au théâtre de l'Œuvre, donc avec David Becker. Et puis bonne retraite pour vous reposer de tout ce boulot, et puis sachant en plus avec tout le boulot qui vous attend, notamment pour la rentrée. Demain, c'est Leïla Slimani qui sera notre invitée. Mmh.